Bonjour, je suis Mathieu Cariou, directeur adjoint de l'UBO Open Factory, qui est un laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire à l'Université de Bretagne Occidentale. Un laboratoire ouvert, c'est le principe que ce n'est pas quelque chose qui est dédié à une certaine discipline ou à une autre ou à un certain statut de personne. C'est vraiment pour faire des projets en collaboratif, ensemble et dans l'intérêt général. Donc c'est à la base un atelier pour les étudiants, pour qu'ils puissent développer leur créativité, leur méthode pour travailler ensemble entre différentes disciplines. C'est vrai qu'un électronicien n'a pas forcément l'habitude de travailler avec un économiste, donc ils apprennent à se parler, à discuter, et puis ensemble faire des projets qui sont beaucoup plus concrets et crédibles que si jamais quelqu'un fait un projet dans sa discipline. On peut aller beaucoup plus loin comme ça ensemble. Donc il y a des étudiants qui travaillent aussi avec des entreprises. C'est un peu ça le but, c'est d'offrir comme ça une transition qui est beaucoup plus douce entre le monde de la formation et le monde professionnel. Donc comme ça, on essaye d'avoir un recouvrement entre les étudiants et l'entreprise petit à petit au cours de la formation. Alors dans notre labo, on essaye de travailler sur des thématiques qui touchent à la ville de demain. Donc on va travailler sur des projets comme l'écologie, le développement durable, l'énergie, le recyclage, le handicap, l'éducation. C'est la ville de demain qui peut être dans quelques mois, quelques années. On voit aujourd'hui des choses qui se passent sur tout ce qui est filière de recyclage. Comment nous, après, c'est comment est-ce qu'on fait intervenir les étudiants le plus possible dans leur formation sur cette thématique-là. Donc des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et qui du coup seront toujours en transition, on l'espère, au fur et à mesure des années. Mais c'est travailler sur tout ce qui est énergie, sur ces thématiques-là. Donc nous, on n'est pas sur la Smart City. La Smart City, c'est ce qu'on a vu émerger, mais souvent, c'est des initiatives qui viennent des professionnels. Donc on peut également se poser aussi la question de la légitimité des professionnels à proposer ce genre d'outils sur des données ouvertes qui sont censées nous aider. Donc nous, on préfère plutôt parler de Fab City. C'est un concept qui est né à Barcelone il y a quelques années et qui permet l'inclusion du citoyen beaucoup plus facilement dans les projets. Donc comment ça se met en œuvre ? On propose aux citoyens, via des événements, via le Science Egg Day qu'on organise fin novembre à l'UBO, de venir travailler dans des équipes mixtes où on va allier citoyens, chercheurs, étudiants, professionnels sur les mêmes thématiques. Et du coup, c'est ça qui est une Fab City, c'est comment on peut permettre à chacun d'utiliser les techniques, son savoir-faire, sa curiosité, ça c'est très important, et tout en partant de l'usage au premier abord, pas de la technologie, mais partir de l'usage, et c'est collaboratif. Là-bas, on a un projet. Donc Julien est en train de présenter également à côté, c'est un projet de récupération d'énergie par les plantes. Donc si on parle de l'usage, on voit qu'on a aujourd'hui beaucoup de murs végétalisés qui commencent à apparaître. C'est comme on parle de la ville de demain, on sait que ça va venir petit à petit, ça existe déjà aujourd'hui, c'est en train de proliférer. On sait que c'est bon pour garder la chaleur, c'est bon pour la pollution, mais on peut aussi se demander si on ne peut pas récupérer de l'énergie électrique avec. Donc on a des projets avec des étudiants sur des piles, ce qu'on appelle des piles microbiennes, qu'on va venir mettre sur les murs de chacun, sur ces murs végétalisés. Donc c'est une plante qui permet de récupérer de l'énergie électrique. Sur ce genre de projet, on a à la fois des étudiants en chimie, en biologie, en électronique, en mécanique, en économie, en marketing, et également des professionnels comme Enedis qui regardent un peu ce genre de projet et qui donnent un regard critique aux étudiants, un retour de professionnel là-dessus pour crédibiliser le projet. On a un petit démonstrateur qui montre qu'on est capable de récupérer sur une pile qui fait quelques centimètres cubes de l'énergie électrique pour alimenter. Là, c'est une LED. Après, il faut imaginer que si on le déploie, on peut aller jusqu'à alimenter des ordinateurs, charger son portable. Et ce qu'on veut faire à terme, c'est faire des enseignes lumineuses pour les magasins, pour faire de la signalétique la nuit, donc des choses qui ne vont pas consommer sur le réseau électrique traditionnel. Mais du coup, c'est une énergie alternative qu'on peut mettre en œuvre pour faire ce genre de choses, un nouvel usage. Et qui est adapté aussi. Donc on imagine que les piles se rechargent le jour et elles délivrent de l'énergie la nuit. Donc c'est pas quelque chose de continu, c'est pas quelque chose pour alimenter du domestique. On sait que les panneaux solaires sont beaucoup plus efficaces dans ce domaine-là, mais si on veut faire de la signalétique, si on veut faire des enseignes lumineuses, ça peut être une solution qu'on envisage. Donc on essaye de regarder sur cet usage-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. On se pose aussi la question, dans territoire où on est, on va forcément générer des déchets. On a la particularité d'être aussi sur un territoire maritime. On sait qu'il y a de plus en plus de groupes de personnes via des entreprises ou des start-up qui regardent tout ce qui est recyclage de filets de pêche, par exemple, ou comment est-ce qu'on peut biosourcer des matériaux grâce aux coquillages qu'on a sur les plages. Là, c'est des matériaux qui ont été récupérés. C'est un petit bol, donc on a voulu montrer qu'on peut mettre en forme grâce à des matériaux qui étaient des déchets. Comment est-ce qu'on peut en faire une ressource pour pouvoir faire ce genre d'objet, ce genre de bol ? Et après, éventuellement, utiliser ces matériaux-là pour les mettre dans des imprimantes 3D, pour pouvoir créer des objets encore plus originaux. Ça, c'est du liège. Ça, c'est du plastique qui a été broyer puis reconstituer. Et donc on va travailler aussi sur le liant, c'est-à-dire qu'on peut créer comme ça des matériaux où le liant va être une espèce de colle, mais on sait qu'elle peut être un peu néfaste au niveau de ses composés. On travaille aussi sur ce liant-là pour qu'il soit bon pour l'environnement, etc. Donc on essaye d'avoir une approche systémique où on prend en compte chaque paramètre et on essaie de regarder au niveau des filières aussi de recyclage, est-ce que c'est bien de faire en local, est-ce que c'est bien de faire en très délocalisé, quel est le juste milieu. Donc c'est ça qu'on essaye d'avoir en tête aussi, de regarder vraiment l'ensemble de toute la filière. Je peux présenter le projet, l'initiative donc, de fabrication du robot InMove. Alors ce robot-là, c'est quoi ? C'est un robot qui est entièrement imprimé avec des imprimantes 3D. Les plans ont été conçus par un designer et qui les a mis en disponibilité sur Internet. C'est un peu comme lorsqu'on va chercher un fichier texte sur Internet, un point doc ou un fichier PDF. Bah, là, c'est pareil, c'est des fichiers 3D. Donc, on va les chercher sur Internet, ils sont disponibles. Et nous, on imprime ce robot-là en 3D. Quels peuvent être les usages après ? Donc là, on est en train de réfléchir à pouvoir faire, par exemple, des visites dans les musées pour les personnes qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc sur le robot, on a des caméras, on peut avoir un retour visuel, etc. Et un des usages qui avait été fait pour ce robot, dont je rappelle que les plans sont disponibles sur Internet, c'est l'usage de ce bras-là pour une personne qui était amputée et qui a réimprimé donc, le bras pour en faire une prothèse. Donc qui lui a permis de jouer un peu avec son handicap, à être sensibilisé, etc. Et à mieux apprécier ce qu'il pouvait avoir comme prothèse aussi, parce qu'il maîtrisait, c'était pas seulement un prothésiste qui disait « tiens, ça c'est bon pour toi », etc. Il a pu voir vraiment comment ça marche, et donc ça donne une nouvelle approche. Il était impliqué dans son handicap, dans ce qu'il faisait, dans quelles étaient les possibilités. Il pouvait personnaliser aussi les choses, mettre un briquet sur sa prothèse, un décapsuleur. C'est des choses qui se font pas à pas. Déjà, à l'échelle de notre université à Brest, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. À organiser ce collaboratif-là, ça vient de plus en plus. Mais là, on arrive à faire aujourd'hui des projets entre des personnes qui sont à la fois en fac de sciences, en fac de lettres, en fac d'économie. Et donc, on arrive comme ça à organiser ce collaboratif-là pour générer des choses, pour générer de la créativité, chose qui était qui n'est pas possible dans les circuits classiques, on va dire. Donc le fait d'avoir ce laboratoire-là à l'université, ça permet comme ça d'offrir plus de possibilités, et ça permet aussi d'avoir des points d'entrée pour les entreprises. Ça permet, nous, de constituer un réseau de personnes qui ont la volonté d'aller vers là et qui voient l'intérêt. Et puis après, on essaye de promouvoir ça. Il y a d'autres laboratoires de ce type dans d'autres universités en Europe. Donc on a également des collaborations avec eux. Pas très loin d'ici, il y a Plymouth également, avec le laboratoire de là-bas avec lequel on travaille. Ils ont un peu les mêmes problématiques aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle. C'est une ville aussi qui a un territoire maritime, un peu jumeau avec le nôtre. D'ailleurs, Brest et Plymouth sont jumelés. Et du coup, avec eux, on va traiter des mêmes problématiques sur la ville de demain, etc., avec cette particularité sur le littoral. Et...
Est-ce que le décloisonnement et la transversalité, c'est pas quelque chose qui devrait être la base d'une pédagogie ?
C'est pas le cas actuellement. On sait que ça a beaucoup de vertus. Donc de là, dire qu'il faut faire seulement ça, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il faut que ça existe de plus en plus. On pense que c'est vraiment, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et d'aller plus vers des compétences sociales que des compétences techniques qui sont très très bien déployées à l'université. Maintenant, les compétences sociales, c'est des choses où on peut travailler dessus et où on sait que les entreprises aujourd'hui sont très friandes de ça. Alors on est en train de travailler dessus, on est en train de monter un observatoire de recherche en sciences de l'éducation pour regarder si les pratiques qu'on met en place, parce que c'est ça tout l'enjeu, hein, est-ce que finalement le laboratoire qu'on met, est-ce que les pratiques qu'on développe, est-ce que ça a vraiment une incidence sur la formation, sur l'employabilité. C'est tout ce qu'on est en train de développer avec des outils en sciences de l'éducation, avec une personne qui est en train de développer ce programme de recherche-là chez nous pour qu'on puisse aller mesurer un peu ces impacts-là. Donc c'est en cours de déploiement. On sait qu'on a des retours non chiffrés, des retours quantitatifs non chiffrés sur une certaine satisfaction des étudiants. On sait qu'on a des personnes qui sont embauchées, que le fait d'être passé par l'Open Factory a peut-être un peu joué de là à donner des chiffres aujourd'hui. Voilà, on a le sentiment que ça aide, que ça les a aidés.